Nous, du coup, on va parler du cloud souverain aujourd'hui, vous l'avez bien compris, chers auditeurs. Pour ça, il fallait aussi laisser parler un opérateur local de data center, de centre de données, pardon, un qui n'a pas forcément d'implémentation hors frontières, un qui doit répondre aux offres de marché public, et surtout un qui était présent avant que le mot cloud commence à devenir un enjeu politique dans l'exécutif national. Un opérateur de centre de données qui est aussi un opérateur télécom et FAI pour les professionnels, le tout à Toulouse. Nous sommes donc allés interviewer Laurent Bacca, président de FullSave, architecte logiciel, soutien du Capitole du Libre, il faut le préciser, et accessoirement voisin du serveur de CPU.pm. CPU, carré et petit utile. Donc depuis 2004, FullSave, vous êtes spécialiste dans le data center. Globalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ?
D'accord, donc un data center, c'est un bâtiment sécurisé, très résilient à n'importe quel type de panne qui puisse arriver, très sécurisé, dans lequel on va pouvoir héberger de nombreux serveurs informatiques et aussi, on y pense moins, mais de nombreux équipements télécom.
Et qui sont les clients de cette infrastructure ?
Alors, tout type de structure d'entreprise peut être intéressé pour ce type de service, de la TPE au grand compte, et évidemment aussi, puisque j'en parlais tout à l'heure, tous les opérateurs télécom sont clients des data centers parce que leurs infrastructures sont hébergées, sont centralisées dans ce type de data center.
Donc les données principal que vous hébergez, c'est du professionnel, moins du grand public. Est-ce que il y a un changement de ce point de vue-là ? Est-ce que plus de gens utilisent les data centers et ton data center ?
Alors effectivement, la tendance est en train de bouger. Donc nous, on est vraiment très focus sur les entreprises. Certains de nos clients vont travailler avec le grand public. Donc indirectement, on va héberger des services grand public, mais on n'a pas de service direct sur le grand public. Mais aujourd'hui, effectivement, le cloud se développe de plus en plus sur le grand public. Tous les Google, les Amazon sont sur des offres cloud grand public. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, très facilement avoir des offres de stockage pour vos photos de vacances sur le cloud, donc dans des data centers comme les nôtres. Pas le nôtre, mais c'est tout à fait aujourd'hui, c'est vraiment en vogue et ça se déploie très fortement.
Alors aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est le projet Andromède et donc cette histoire de cloud souverain qui est lancée en 2009 par le gouvernement Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un projet de construction d'un grand centre d'hébergement de données informatiques. Comment, en 2009, du coup, ça fait 5 ans que vous êtes dans le métier, comment s'est perçue cette volonté, cette ambition de créer un cloud souverain, un cloud français en tout cas ?
Il y a deux parties. L'idée, à la base, elle est plutôt intéressante. Si on se replace dans le contexte, en 2009, c'est les affaires Snowden. Enfin, on fait semblant de découvrir que les États-Unis espionnent un peu tout le monde. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, c'est le début de l'explosion du numérique. Donc, il faut agir. On sort d'une crise économique. Donc, relancer des investissements, à mon avis, sur le principe, c'est une bonne idée. C'est plutôt dans la manière que c'est mis en place que dans notre métier, on a été très surpris parce que on a utilisé directement des grandes structures alors que peut-être qu'il existait des acteurs en place qui auraient été peut-être plus pertinentes et plus en mesure d'adresser ce cloud souverain. Malheureusement, c'est pas ce qui a été choisi. On est passé par des grosses structures qui ont peut-être été un peu lentes à mettre en marche ces services.
Parce que justement, en 2009, vous existez, vous êtes ici à Toulouse. Quelle est la situation ? Combien il y a d'entreprises françaises spécialisées dans le cloud, en fait ?
Oui, il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup. Nous, à l'époque, on communique déjà sur le cloud régional. Donc, comme quoi, c'est déjà quelque chose qui est bien en place. Alors, l'État le découvre un petit peu plus en retard, peut-être. Mais aujourd'hui, enfin, en 2009, vous avez déjà des dizaines de boîtes qui sont déjà sur le cloud, dont une demi-douzaine qui sont déjà très connues et déjà, je dirais, un petit peu en tête de filière sur ces technos-là. Alors, on connaît tous OVH aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui auraient pu. Donc, on a des boîtes comme Gandhi, comme Ikula, qui sont déjà en place, qui communiquent déjà fortement sur le cloud et qui sont déjà positionnées à l'international.
Comment, dans ce cas-là, s'opère le choix de l'opérateur de secteur qui va mener à bien ce projet gouvernemental? Comment c'est vu de l'intérieur, en tout cas?
C'est un appel d'offres public. On sait que généralement, les appels d'offres publics, il y a peu de sociétés qui sont pertinentes pour y répondre, pour les gagner. Et comme par hasard, là, c'est effectivement celles-là qui ont été mises en avant. Et encore une fois, je pense que les structures en place, qui étaient vues comme plus petites, donc moins pertinentes, n'ont pas eu droit au chapitre.
Donc c'est quelle entreprise, pour les citer, pour les auditeurs?
C'est Orange, c'est Thales, c'est SFR, c'est Bull. C'est ces sociétés-là qui ont gagné cet appel d'offres-là.
Et donc l'idée, c'était quoi? C'était créer un grand data center, une grande entreprise. On verra par la suite que ce n'est pas trop ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'elle devait faire? Quel était le but? C'était vraiment d'avoir quelque chose de souverain, c'est-à-dire de ne pas dépendant des États-Unis? C'était globalement ça?
Oui, l'idée, c'était d'être autonome, de bénéficier de techno et de services et d'une grosse société qui soit capable de concurrencer les Amazon, les Google. Encore une fois, l'idée était intéressante, hein. C'est dans la manière que ça s'est pas réalisé. Déjà, donc, tu en parles juste à l'instant, il n'y a pas eu une société, mais il y en a eu deux. Déjà, dès le départ, il n'y a pas eu entente sur le mode opératoire. Donc, deux structures, Orange et SFR, qui se sont partagées la manne. À partir de là, je pense que déjà le verre était dans le fruit, peut-être.
Avant de revenir sur le sujet, juste je voudrais creuser cette question là. Pourquoi la localisation, créer un centre de données en France, pourquoi c'est un argument de sécurité, par exemple, alors que les équipementiers, par exemple ceux qui font le matériel, ils ne sont pas forcément français. Donc, est-ce que c'est utile vraiment de créer un centre ici? Est-ce que ça veut dire qu'on le contrôlera mieux?
Oui, ça c'est évident. On le contrôlera mieux techniquement, on le contrôlera mieux au niveau contractuel et au niveau juridique. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que les Américains et les sociétés américaines...
Du coup, oui, juste dernière petite question avant de revenir sur l'épopée Andromède. En quoi offrir une localisation française, c'est un argument de sécurité pour les utilisateurs, les clients donc, de ces data centers?
C'est à la fois une question de sécurité technique, mais aussi contractuelle et juridique. On sait aujourd'hui que tout ce qui est hébergé par des sociétés américaines est susceptible d'être donné aux services secrets et donc indirectement aux entreprises américaines. Donc l'idée, c'est d'être autonome et de ne pas dépendre des États-Unis pour ce genre d'infra qui aujourd'hui sont absolument indispensables pour toutes les entreprises, pour tous les corps d'État. Il faut vraiment avoir la capacité d'être autonome sur ces technos-là. Et aujourd'hui, on nous dit que ces entreprises viennent faire de l'hébergement en Europe, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, c'est bien la société, le droit de société, la société mère qui compte. Donc, quand Amazon vient héberger des données en Europe, ça change rien à la problématique. Ces données sont légitimes pour être données aux services secrets américains. Donc, il faut vraiment être autonome de ce point de vue-là. C'est, à mon avis, une question vraiment importante pour la France et pour l'Europe.
Mais en dehors des entreprises françaises qui faisaient déjà ça, en Europe, je veux dire, en Allemagne peut-être, il n'y avait pas déjà beaucoup d'acteurs qui auraient pu faire des data centers européens, non pas que français?
Si, bien sûr. On a des opérateurs qui, à cette époque-là, en 2009, existent dans de nombreux pays européens. Peut-être que la France est bien positionnée déjà à cette époque-là parce qu'on a la chance d'être sur des métiers qui consomment beaucoup d'énergie et où l'énergie est de très grande qualité en France. Donc la France est reconnue pour être un bon pays pour disposer d'infrastructures importantes.
Et juste si on peut dresser le tableau en faisant un pourcentage, quelle est globalement la part des informations qui sont stockées ici en France ou en Europe? Alors là, tu fais une grosse moue que les auditeurs ne voient pas, mais qui révèle bien la réponse que tu vas me faire. Donc la part entre ce qui est stocké ici, ce qui est stocké à l'étranger, notamment aux États-Unis, est-ce que c'est possible d'estimer ça?
Alors c'est sûrement possible si on fait des études complexes. Après, je pense qu'il est important de différencier les données d'entreprise et les données du grand public. Je pense que si on parle des données du grand public, on se ferait peur. Je pense qu'une grande majorité est déjà aux États-Unis. Donc tous les profils utilisateurs, tout ça, c'est déjà aux États-Unis. Au niveau de l'entreprise, je pense que c'est un peu moins vrai. C'est peut-être en train de bouger, de se déplacer vers les États-Unis, mais je pense que le pourcentage est quand même beaucoup plus faible pour l'entreprise que pour le grand public.
Laurent Bacca, donc, qui nous interviewons, le président de FullSave, dans Carré Petit Utile.
Bon, retour à Andromède, donc c'est lancé en 2009, blablabla, c'est doté de 150 millions d'euros quand même. C'est piloté par Dassault Systèmes, mais qui ne s'entend pas du tout avec Orange et SFR. Et du coup, Dassault s'en va, claque la porte. Donc l'État un peu embêté, alors, je résume parce que ça a dû être bien plus complexe que ça. L'État décide donc de couper la poire en deux, 75 millions pour CloudWatt, 75 autres millions pour Numergy, qui sont donc deux sociétés qui vont devoir faire la même chose en concurrence. Face à ce choix un peu peut-être étonnant, comment les professionnels du secteur réagissent ?
On est assez dubitatif, on est un petit peu même aigri, je dirais, parce qu'on n'a pas du tout été consulté. On avait l'impression qu'on avait déjà des technos intéressantes et donc peut-être on a trop bon à dire. Et dans les faits, cet appel de l'offre publique, parce qu'il y a eu un appel d'offre publique, hein, n'a pas du tout été ouvert aux acteurs en place. Il a été phagocyté par les entreprises nationales. C'est dommage. Je pense que dès le début, en faisant le choix d'exclure l'écosystème déjà en place, c'était déjà peut-être le début d'un signe comme quoi c'était un projet voué à l'échec.
Tu dis échec parce que Orange et SFR ne s'y connaissaient pas du tout là-dedans, ou ils avaient déjà des projets, ils étaient déjà positionnés ?
Ils étaient déjà en place sur les offres de services d'hébergement. Je pense qu'ils n'avaient clairement pas les technologies du type OpenStack, par exemple, sans rentrer dans la technique. OpenStack, c'est une technologie qui permet d'industrialiser complètement la création de serveurs virtuels. Et à mon avis, clairement, il y avait du retard technologique sur ces grands opérateurs que d'autres acteurs avaient déjà, étaient déjà en avance sur ces technos-là. Et ça leur a permis de combler ce retard.
D'accord, donc c'est une manne d'État, 150 millions divisé par deux, qui leur a permis de revenir sur le devant de la scène au niveau du cloud.
C'était pas l'objectif prioritaire peut-être, on va considérer que l'objectif était plutôt plus sain que ça, mais dans les faits, c'est ça qui s'est passé, effectivement. Je pense que ça a permis à ces deux opérateurs de recoller au train technologique. Après, est-ce que ça suffira pour eux pour avoir des offres de services pertinentes ? Ça, c'était une autre question.
Parce que du coup, ces deux entreprises sont créées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie à l'époque, en 2010-2011, quand elles lancent leurs services ?
Oui, ce qui les différencie, c'est de ne pas avoir une approche technique, technologique, mais marketing. C'est ça qui a été très nouveau. On se souvient tous des publicités de Teddy Riner pour CloudWatt. Malheureusement ou heureusement, l'offre de service, elle a la base technique, donc le côté marketing n'a pas suffi pour embarquer tout le business derrière.
C'est-à-dire qu'ils n'offraient pas ce qu'ils... ils n'avaient pas mis les moyens à la hauteur de leurs ambitions, parce qu'ils voulaient faire, donc, on le rappelle, un cloud français, le cloud français. Derrière, ça ne suivait pas du côté technique ?
Ça aurait fini par suivre, je pense. Sauf que ils ont peut-être commencé par le marketing en disant que la technique suivrait, alors que nous tous, venant de ce métier-là à la base, on est là avant tout très technique, et le marketing est mis dans un deuxième temps. C'est une question de priorité. Je pense que ces projets-là, techniquement, ils étaient pertinents, hein. Ils sont arrivés au bout de leur projet, mais c'est pas ça qui était mis en avant. Dans l'offre de service, ce n'était pas la technique. Et du coup, ça a été un peu surprenant. Je pense que l'offre n'a pas trouvé son public parce qu'on est habitué à avoir quand même des approches très technologiques. Et ce n'était pas ce qui était mis en avant sur le sujet.
Alors pourquoi tu parles d'échec? Pourquoi on parle d'échec? C'est pas juste un constat qu'on fait toi et moi, c'est quelque chose qui est assez partagé. Ces deux entreprises, 7 ans après, elles existent encore, même s'il y a eu des rachats d'actionnariat, etc. Donc t'as Orange et Thales qui sont actionnaires et qui possèdent CloudWatt, SFR et Bull qui ont Numergy. Chaque structure, au début, elle était valorisée de 225 millions d'euros. Aujourd'hui, CloudWatt, en 2014, pardon, CloudWatt n'a généré que 2 millions d'euros de recettes et Numergy 6. Est-ce que du coup, c'est-à-dire elles ne sont pas cassées la figure non plus, elles existent toujours. Pourquoi on parle d'échec?
Alors, sur le niveau déjà actionnariat, Thales est sorti de CloudWatt. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est 100% Orange. Quel est par rapport à l'esprit initial qui était d'avoir un projet multipartenaire. Voilà, on se retrouve avec aujourd'hui Orange qui a récupéré tout CloudWatt. Numergy, je pense qu'ils sont passés par la case procédure de sauvegarde. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'actionnariat, mais à mon avis, SFR va récupérer ou a déjà récupéré l'intégralité de l'actionnariat. Après, le chiffre d'affaires, effectivement, il est là. Mais par rapport à, si on regarde ce qui était annoncé dans les business plans à l'origine, je pense qu'on parlait de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2016 ou 2017. Si on est à 2 aujourd'hui, on n'est pas tout à fait. Enfin, il va falloir mettre les bouchées doubles pour finir, quand même, je pense. Hein. Et après, je ne suis pas sûr non plus que le nombre d'emplois créés soit au rendez-vous. Après, on peut se poser la question pourquoi l'État a investi tout cet argent si jamais l'offre international qu'on nous avait promis n'est pas là, et si jamais les emplois n'ont pas été créés. C'est peut-être ça qui explique l'échec relatif du projet.
Parce qu'aujourd'hui, du coup, ces deux entreprises ne sont absolument pas même numéro un du marché en France. Qui est du coup, quel est le marché actuellement qui possède, enfin, qui est en tête de gondole, si je puis dire?
Oh ben, la tête de gondole aujourd'hui, si on exclut les sociétés américaines, hein, les Amazon, les Google et les Microsoft, c'est clairement OVH aujourd'hui. Je pense qu'OVH était déjà dans les starting blocks en 2009. Peut-être que c'était un petit peu trop tôt pour lui, mais aujourd'hui, c'est lui qui est en tête de gondole, pour reprendre ton expression, clairement.
Pourquoi d'ailleurs à l'époque, OVH a complètement été mis de côté, ou pourquoi ne s'est-elle pas impliquée dans ce projet-là?
À mon avis, c'était un petit peu trop tôt, je pense.
C'est-à-dire?
Ils n'étaient pas encore autant visibles qu'aujourd'hui. Je pense que si la même donne était faite aujourd'hui, ils seraient partie prenante du projet.
Et tu me disais tout à l'heure que ça avait un peu servi à les mettre en valeur, justement, cette histoire de cloud souverain, d'échec de cloud souverain.
C'est possible, hein. C'est un avis comme un autre, mais je pense qu'à un moment donné, ce projet-là ayant... De mon point de vue, ces projets ayant échoué, il fallait pour autant trouver une tête de gondole. Je pense qu'OVH était là pour récupérer ce poste-là. Aujourd'hui, ils sont clairement positionnés à l'international. Après, ils ne sont pas les seuls sur le marché, hein, évidemment. Et moi, je pense que de même qu'il est important d'avoir un cloud souverain, il est important d'avoir du cloud régional. Il le faut à tous les échelons de la chaîne. Et clairement, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ces projets en région et d'évangéliser le marché, d'aller accompagner les entreprises vers la migration vers le cloud. Et c'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui et qui est très pertinent, à mon avis, et très demandé par les entreprises.
Donc plutôt que faire une grosse structure souveraine, française, centralisée, comme on les aime bien, il faudrait privilégier des petites entre guillemets, solutions réparties partout sur le territoire, dans les DOM-TOM aussi, on les oublie pas. C'est ça la solution, ça serait ça le cloud souverain, une collection de structures, de data centers régionaux.
C'est clairement notre avis chez FullSave, et aujourd'hui le succès chez FullSave, je dirais, montre bien qu'il y a un marché pour cet accompagnement de proximité. Aujourd'hui, on est sur des croissances de 30% par an. Effectivement, tu parlais de DOM-TOM. On travaille en partenariat avec des sociétés de DOM-TOM qui sont effectivement aussi très demandeuses de cet accompagnement de proximité.
Et donc aujourd'hui, cette question de cloud souverain, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même intéressante, même si elle ne passe pas par CloudWatt et Numergy, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'on y approche ? Est-ce que entre 2009, où on était peut-être complètement dépendant des clouds américains, est-ce qu'aujourd'hui on en est moins dépendant parce que les acteurs français se sont développés ?
Je pense que l'offre est là, effectivement. Après, est-ce qu'on est moins dépendant ? Oui, sûrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, on s'est donné les moyens d'avoir une autonomie sur ces métiers-là. Mais ce n'est pas forcément l'impulsion de l'État qui a suffi. C'est quoi. Voilà, le terreau, le contexte était déjà favorable à l'époque et on a réussi à créer cet écosystème-là sans ces fameux 150 millions d'euros qui ont été donnés à d'autres structures.
Alors, ils n'ont pas tout complètement été donnés, hein. Les enveloppes n'ont pas été vidées, c'est à peu près la moitié qui a été dépensée. Est-ce qu'il y aurait du coup encore du soutien à apporter donc à d'autres acteurs que les deux qu'on a déjà cités ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour développer les data centers et les clouds français, en fait ?
Oui, clairement, le combat n'est jamais gagné, hein. C'est une vraie guerre économique. Les enjeux sont vraiment très, très importants. Donc, oui, il y a des choses à faire. On peut passer par des réflexions sur les appels d'offres publiques. On peut passer sur de l'accompagnement, le développement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup d'aide à l'innovation. Je pense que l'enjeu, il est là. Je pense que l'État, pour le coup, aujourd'hui, est visible sur cet accompagnement-là. Après, il faut que ça soit dans la durée. Il faut que ça continue, il faut que ça soit bien géré. On va dire que ça va marcher.
Mais il y a des projets en cours, je veux dire, des nouveaux projets Andromède qui arrivent à l'horizon ou pas du tout ?
Non, en tout cas, pas que je sache. Par contre, on entend beaucoup les services de l'État aujourd'hui essayer de dynamiser l'écosystème, tout ce qui est autour de l'innovation. On favorise l'investissement dans les startups. Donc je pense que ça passe aussi par là, dans ces aides indirectes. Je pense qu'il y a l'enjeu, il est là. Il est dans l'idée d'aider les startups et les sociétés en cours d'envol à avoir une piste de décollage qui soit claire et qui puisse permettre de faire le business tranquillement, quoi.
Et dernière question, et puis après on arrêtera, c'est une question un peu plus ouverte au niveau européen. Est-ce qu'il y a une réflexion pour mettre en commun ou bien créer des structures européennes, à défaut d'être françaises, allemandes, et en tout cas pour être autonome au niveau continental ? Encore une moue de Laurent Bacca.
Ouais, je pense que, en tous les cas, j'en ai pas connaissance, et je pense que l'air du temps n'est pas à ce genre d'ouverture à l'international, de cohabitation internationale. Aujourd'hui, on est quand même plutôt tendance à favoriser le franco-français et on va faire avec et ça va être très bien comme ça.